Matthieu de l'Ancien Testament, d'un des patriarches, qui s'appelait Jacob. C'était un jumeau, hein. Ils sont nés deux à peu près, presque au même moment. Il n'était pas l'aîné, il est né après, en tenant le pied de son frère. J'ai appelé cette réflexion « Trois combats pour un nom nouveau ». Jacob, à un moment de sa vie, va faire une rencontre, j'allais dire, existentielle, très forte avec Dieu, qui va changer sa vie. Son nom va changer, son nom on le connaît aujourd'hui, hein, il va s'appeler Israël. Il aura une grande descendance, et cette descendance est toujours présente aujourd'hui sur toute la face de la terre. Trois combats pour un nom nouveau. Mais je vous propose de démarrer par un texte dans Genèse, au chapitre 32, qui est le texte où Jacob a changé de nature, changé de nom. Genèse au chapitre 32, à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. » Et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Dans ce texte, Jacob demeura seul, c'est son troisième combat. Un combat solitaire. Peut-être que le plus grand des combats dans nos vies est celui que l'on affronte seul. Je vous relis ce petit bout de texte. Hein. Jacob demeura seul. Il y a des moments dans notre vie où on n'aime pas être seul. Et il y a des moments pourtant où c'est important. Il y a des combats, il y a des conflits qu'on doit résoudre, il y a des choses qu'on ne peut faire que par soi-même. Dieu l'a rencontré en face à face. Il a dit « J'ai vu Dieu face à face ». Normalement, tout l'Ancien Testament, toute la période vétérotestamentaire, on ne voit pas Dieu face à face. Donc c'est alors peut-être une rencontre avec Jésus avant son incarnation, avec celui qui rencontre les hommes. En tous les cas, Jacob a dû lâcher prise. Il a vécu quelque chose de profond. Est-ce que dans nos vies, dans ce combat seul avec Dieu, est-ce qu'il y a un moment donné où Dieu nous amène à dire, pour l'avoir vécu moi-même, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Lâcher prise. Le combat peut durer longtemps. Là, le combat a duré toute la nuit. Et puis, les forces étaient équilibrées. Ni l'un, ni l'autre. Et puis, ce Dieu qu'il a rencontré, là, il ne l'a pas mis KO. Il a juste toussé la hanche en disant, voilà, tu te rappelleras toute ta vie de ce que tu as vécu. Jacob est devenu quelqu'un d'autre, son nom a changé. Le Jacob, l'ancien, a été mis de côté. Jacob est devenu Israël, un nom qui nous parle encore aujourd'hui, un nom qui est valable pour l'éternité. Et Jacob a été habité par quelque chose d'autre. Les débuts de sa vie ont été différents. Genèse au chapitre 25, les versets 23 à 34. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir. Voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement rond, comme un manteau de poils. On lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob, c'est-à-dire saisir par le talon, supplanteur. Il y a plusieurs traductions possibles. On lui donna le nom de Jacob. Isaac, son père, était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Rebecca, sa mère, aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue, presque à la mort. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob lui dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi bon me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain, du potage, de lentilles. Il mangea, il but, il s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il y a des circonstances dans la vie qui font qu'il faut apprendre à faire des choix. Soit d'un côté, soit de l'autre. On est là déjà dans une fratrie. Déjà, je pense qu'il y a des tensions. Le père aimait l'aîné, le premier-né. Moi, il faisait des petits plats. C'est sympa. Et Jacob, lui, il aimait rester simplement tranquille, voilà, sous sa tente. Un peu méditatif, un peu philosophe, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il était aimé par sa mère. Je pense que la mère de Jacob, Rebecca, elle avait discerné quelque chose. Elle avait compris qu'entre les deux frères, leur destinée, leur chemin serait différent. Je pense aussi qu'elle a... Déjà, elle a fait des choix. Et je pense qu'elle a orienté Jacob. En tous les cas, il ne perd pas le nord. Quand son frère revient, il dit « Waouh, finalement, ça sent bon ici. Moi, je fais bien à manger, mais toi, c'est pas mal. » Puis il dit « Voilà, je suis fatigué, j'ai bien travaillé. Donne-moi un petit peu. » Jacob, il part mal, il dit « Ouais, ok, mais dans ce cas-là, comme tu es déjà tellement fatigué, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü aurait pu refuser. Il aurait pu dire, est-ce que mon droit d'aînesse, ça vaut un plat de lentilles? Personnellement, je fais des saucisses lentilles, c'est très bon. C'est un bon plat, mais c'est passé aujourd'hui dans le dans la chose populaire, hein, le plat de lentilles d'Ésaü. Pour un plat de lentilles, il a laissé de côté son bras d'Annecy. Il a perdu la bénédiction qu'il y avait sur la tête, sur la vie, sur le chemin du premier-né. Et puis, la transaction affect s'est passée du côté de Jacob. Tout ça, ça sent déjà bien le conflit dans la famille. Le père préfère l'aîné, Ésaü, la mère préfère Jacob. Jacob, il fait un petit arrangement, il dit à Ésaü, allez, vends-moi ton droit d'aînesse. Bon. Combien de tensions, de conflits dans nos familles. Je pense que pour tout le monde, c'est un petit peu habituel. Dans ma famille, il y a eu des conflits, mes parents ne s'entendaient pas. Quand ma maman a choisi de quitter le catholicisme pour choisir une église de Pentecôte, toute la famille l'a mis de côté pendant une dizaine d'années. Mais elle a choisi la bénédiction du droit d'aînesse. Elle a choisi son camp. La famille a mis 10 ans avant de reconnaître que, bon, finalement, elle n'avait pas changé tant que ça. C'est seulement au décès de mon père que la famille s'est un petit peu raccrochée, puis que les relations se sont retissées. Mais je sais que pour maman, ça a été très difficile. Là, il va y avoir des ruptures dans la famille. En conséquence, il y a des conflits. Un premier combat, mais en tous les cas, Ésaü méprise la bénédiction. Il choisit des appétits charnels, il choisit un bon repas à la place du droit d'aînesse. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous feriez encore aujourd'hui? La vie éternelle avec Jésus? Ou bien la vie du monde. On a une parole inspirée ce matin qui disait, voilà, tu choisis un pied dans le monde, un pied dans la foi, mais à un moment donné, il faut se décider. Est-ce que tu laisses ton droit d'aînesse dans le monde, ou est-ce que tu choisis le droit d'aînesse, la bénédiction du Père? Toujours des choix dans la vie. Jésus a résumé ça dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11. Et le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Quelque part, il y a eu une violence chez Rebecca, chez Jacob. Ils ont choisi. Ils ont choisi la bénédiction d'Isaac, la bénédiction du Père, la bénédiction du droit d'aînesse. Ce matin, il y avait une parole qui n'était pas violente, qui était apportée aussi avec beaucoup de douceur, mais qui appelle à faire un choix. Un choix, c'est toujours quelque chose de violent, assez carré. Comment est-ce que j'apprends à faire des choix? On dit qu'apprendre à dire non, pour certains, c'est difficile. Apprendre à dire non au monde, apprendre à dire non à soi-même, renoncer à soi-même. Seigneur, je choisis ta grâce, ta bénédiction. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis la vie éternelle. Pour toujours, où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. C'est peut-être renoncer aussi à une certaine sorte de souveraineté personnelle, pense savoir pour soi ce qui est bien. Jacob a choisi. Jacob choisit la bénédiction. Pour l'avoir, il va utiliser une technique. Il va se déguiser comme son frère. Il va mettre un manteau avec des poils. Et puis il va faire un bon plat à son père. Et puis, mon père, donne-moi ta bénédiction. Isaac, un petit peu aveugle, va lui dire, tiens, c'est pas l'odeur d'Ésaü, mais ça ressemble quand même à Ésaü. Et puis il va lui donner la bénédiction. Quelques heures après, Ésaü va revenir de la chasse, il prépare aussi un bon plat, et puis il va voir son père, il dit, mon père, bénis-moi. Et puis là, il y a quelque chose d'assez violent pour Isaac. Genèse chapitre 27, le verset 33. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier, qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Pour tout d'un coup, la bascule se fait pour Ésaü. Il prend conscience tout d'un coup de ce qu'il a laissé aller, de ce qu'il a laissé passer. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume. Et il va être vraiment très très fâché après son frère. Pourtant, quelques semaines, quelques mois en arrière, il avait dit, ouais, tu veux le droit de naissance, tu veux la bénédiction, vas-y, je te la laisse. Puis là, tout d'un coup, il prend conscience de ce qu'il va perdre. Et il va vouloir aller jusqu'à tuer son frère. La fratrie se déchire. Les héritages sont souvent des moments difficiles dans les familles. Ésaü va perdre quelque chose. Jacob va gagner quelque chose. C'est son premier combat. Il a pris le droit d'aînesse à son frère. Quitte à vivre après des temps qui vont être difficiles. À Ésaü, l'amertume, la haine, l'envie de meurtre. Parce qu'il réalise que ce qu'il a perdu est énorme. Il y a une évaluation de la position d'Ésaü dans le livre, dans l'épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 12. Les versets 15 à 17. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mais vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Entrons pleinement dans la bénédiction de Dieu. Elle nous est proposée en Jésus-Christ. Ne la laissons pas de côté. Ésaü l'a laissée de côté. Sa vie va prendre un autre chemin, une autre dimension. J'allais dire tout le monde paye un petit peu les pots cassés encore jusqu'à aujourd'hui. Ces conflits qui ont commencé il y a des millénaires sont toujours actifs aujourd'hui entre Israël et ses voisins. Toujours des tensions, il y a des conflits qui viennent de loin. Ésaü ne va pas hériter d'Amixon et puis il va continuer à fâcher son père et sa mère. Il va partir un petit peu loin. il va prendre des femmes dans une autre fratrie. Donc l'éloignement va continuer. Il va prendre deux femmes hittites. Après, il va aller parmi les descendants d'Ismaël. Il va reprendre une autre femme. Il quitte cette patrie, cette fratrie. Conséquence pour Jacob, des tensions, bien lui aussi, il va s'en aller. Sa père et sa mère lui disent, voilà, va dans notre famille, un petit peu plus haut, en Canaan, et puis voilà, dans la famille de Laban, tu vas trouver une épouse, et puis tu vas pouvoir continuer ta vie. Pour construire sa vie, Jacob va devoir partir. Quitter sa fratrie, quitter Ésaü, quitter sa patrie, quitter son père, sa mère, et puis partir pour faire sa vie professionnelle, sa vie familiale. Il va vivre des choses difficiles, il va vivre aussi des belles choses. En route, il va y avoir la vision de cette fameuse échelle. Jacob va s'endormir, la tête sur un rocher, et puis la nuit, il va avoir une vision d'une échelle depuis la terre jusqu'au ciel, avec des anges qui montent et qui descendent. Genèse chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba, s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre. Son sommet touchait au ciel. Voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Au verset 17, fin du verset 16, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet, il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi, me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Bethel est devenu un lieu important dans la vie des patriarches, dans la vie d'Israël. C'est un lieu qui veut dire la maison de Dieu. Et Jacob a commencé à faire des expériences avec Dieu qui lui sont... Là, ça ne concernait que Jacob, ce n'est pas sa famille, c'est pas... Dieu cherche à toucher sa vie et puis à l'encourager. Puis en fait, je remarquais en relisant le texte ces jours-ci, Jacob fait une prière comme la prière de Jabez. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette prière. C'est dans le premier livre des Chroniques. C'est un petit peu la même chose. Voilà, Seigneur, je fais un défi, un deal avec toi. Si tu t'occupes de moi, si ma vie est sympa, eh bien, voilà, je me donne entièrement à toi. Et puis, on voit dans la suite du temps, eh bien, que Jacob va vivre cette prière. J'ai entendu parler de la prière de Jabez pour la première fois, c'était Jean-Claude Chablot, dans une prédication qui était très très belle, et je me suis dit, waouh, Seigneur, cette prière, ce texte, cette parole de Dieu, j'aimerais la vivre. J'aimerais prier. Si Dieu était avec moi, s'il me garde pendant le voyage, s'il me donne du pain, une vie professionnelle, s'il me donne une vie de famille, si je retourne en paix, dans ma maison, voilà, je te choisis pour toujours. Où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Ces prières-là n'ont un impact dans nos vies que si vraiment il y a un abandon. Un lâcher prise. C'est pas une négociation. C'est pas un vœu qu'on fait comme ça, un petit peu tête en l'air, non. Seigneur, j'abandonne ma souveraineté personnelle sur ma vie. Mais si tu accompagnes ma vie, si tu la bénis, si ce droit d'aînesse, si cette bénédiction de l'aîné m'accompagne, alléluia, je te choisis pour Dieu. Je veux dire, quelque part, le Seigneur m'a fait la grâce de vivre ce type de prière, voilà, une belle sécurité, aussi un beau chemin avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des épreuves dans la vie, dans le chemin à Jacob, on va en avoir plusieurs. Mais en tous les cas, il a cette certitude que Dieu l'accompagne pendant tout le temps de sa vie. Jacob va aller dans la famille de ses parents, il va rencontrer Laban. Laban, il a une jolie fille qui s'appelle Léa. Alors Jacob dit à son futur beau-père, ah bon, à l'époque ça se faisait un peu, bah, ça c'était une négociation. Hein. Je travaille combien de temps et puis tu me donnes Léa pour épouse. Ou c'est Rachel, j'intervertis les deux. Jacob a aimé Rachel au premier coup d'œil. Puis Laban lui dit, bah, tu travailles 7 ans et puis je te donne Rachel. Rachel était la cadette, et le soir des noces ou de la cérémonie de mariage, et puis au lever le lendemain matin, Jacob s'aperçoit que c'était pas Rachel, c'était Léa. Puis Laban lui explique, ouais, tu sais, la coutume chez nous, c'est qu'on ne donne pas la cadette avant l'aîné, donc je te donne l'aîné, et puis pour la cadette, bah, tu y travailles 7 ans en plus. Puis donc, Jacob, qui était un petit peu malin et qui savait bien gérer ses affaires, Laban l'a un petit peu mis dans sa poche et puis voilà, un petit peu, on dirait aujourd'hui, il s'est fait un petit peu avoir. On ne sait pas, bon, en même temps, il a construit quelque chose, il a commencé à avoir des enfants, il avait déjà 2 épouses, et puis sa vie s'est développée, et puis un jour, il a dit à Laban, voilà, maintenant j'aimerais travailler pour moi. Puis Laban a dit, bah, tu travailles 6 ans, et puis... Donc ça fait au total... 7 et 7, 14 et 6, 20, une vingtaine d'années. Dans son combat contre Laban, Jacob n'a pas toujours été vainqueur. Et puis, il y a une épouse, voilà, bon, il a eu des difficultés pour avoir des enfants, leur épouse avait des servantes, il a pris les 2 épouses, et puis au total, il a eu 12 enfants. Bénédiction de Dieu, l'a accompagné. Il a eu un troupeau qui est devenu tellement grand qu'un jour il s'est dit, voilà, Laban a essayé de l'avoir. Dieu lui a montré un stratagème pour augmenter son troupeau. Et puis un jour, encore un temps de choix, après 20 ans. Et maintenant, je fais quoi? Je ne peux pas rester chez Laban, je suis devenu trop... Il y a de la concurrence. Et là, il a dit, comme il a fait cette prière, « Si je retourne en paix à la maison de mon père. » Jacob s'est dit, « C'est le moment de rentrer chez mon père. » Et c'est là où il fait cette rencontre. Il va rencontrer d'abord le camp de Dieu. En rentrant chez son père, il dit, « Ouais, je vais passer pas très loin de chez Ésaü. » Et puis là, on dit en français, il a les chocottes, c'est ça? Il n'est pas très rassuré parce qu'il se rappelle que des années auparavant, la transaction du droit d'aînesse, c'est pas toujours très très bien passé. Quel que soit le passé, il y a des moments où il nous rattrape quand même un petit peu et où il faut l'assumer, il faut le regarder en face. Et c'est là où Jacob fait cette rencontre. Et ce combat avec un homme, Jacob resta seul. Par moments, le bilan de notre vie, il faut le faire seul. En face à face avec Dieu. Ce n'est pas les moments les plus faciles. On a un passé qui parfois peut être lourd, qui peut nous avoir liés, qui peut nous avoir... retenu, puis à un moment donné, on se dit, voilà, mais il faut que je continue à avancer. faut que je retourne dans la maison de mon père. Le fils prodigue dit, là, je vais regarder à l'intérieur de moi-même, et puis je vais me lever, je vais retourner vers mon père. Le moment pour retourner vers notre Dieu. Pour ça, c'est beau d'avoir des témoignages parmi nous, des premières fois où on ressent cet appel à retourner vers la maison de mon père. Quelles qu'aient été nos difficultés, nos souffrances familiales, on a eu deux témoignages ce matin avec des moments de souffrance, qu'est-ce qu'on fait avec ? Comment est-ce qu'à un moment donné, dans un combat intérieur, face à Dieu, on peut dire, voilà, Seigneur, je veux abandonner tout ce qui a été de mon passé, tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été lourd, tout ce qui m'a retenu. Dieu nous aime et le combat est à égalité. Le texte dit, le combat n'était pas tranché. Ça allait ni d'un côté, ni de l'autre. Je ne sais pas s'ils ont fait... Dans le temps, les garçons, quand j'étais ado, on appelait ça le bras de fer. J'étais pas très bon. Moi, j'ai jamais trop aimé ces trucs-là. J'ai toujours pris plus de coups que j'en ai donné. Ce qui fait qu'à 18 ans, je me suis dit finalement, être non violent, moi, ça me convient mieux. Je suis pas très doué pour la violence. Et puis en même temps, avec Dieu, les violences sont part du royaume de Dieu. Parfois, avec Dieu, il faut être ferme dans ce que l'on veut, dans nos choix, apprendre à choisir. Seigneur, je veux vivre avec toi, je veux vivre ta bénédiction, je veux choisir la vie éternelle qui est auprès de toi. On ne peut pas se transformer soi-même. Dans ce combat avec Dieu, ni perdant, ni gagnant, Dieu nous aime et nous respecte. Il ne cherche pas à nous humilier. C'est un combat entre adultes. Et puis, à un moment donné, voilà, il n'y a pas de gagnant. C'est gagnant-gagnant. Mais en même temps, Dieu va toucher Jacob dans sa faiblesse. Petit coup de bâton à la hanche. Et il se rappellera pour le restant de ses jours que Dieu l'a touché aussi dans son point faible. Et que tous ces petits arrangements d'avant, il doit les mettre de côté. Et il doit vivre avec Dieu avec une mentalité renouvelée. Et Dieu le dit en signe de ce renouvellement, change ton nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Il va devenir patriarche de 12 tribus, 12 enfants, 12 tribus. Son histoire nous parle encore aujourd'hui. Un combat contre son frère, contre son père, combat contre Laban, un combat contre Dieu, contre lui-même. Un combat dans le respect. Dieu le respecte, l'aime jusqu'au bout. Un combat gagnant-gagnant. Si tu m'aides dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie d'église, dans la vie tout court, je te choisirai. Et Dieu le marque, mais Dieu le touche quand même dans sa faiblesse. Je vous renvoie à tous ces textes des hommes de Dieu que Dieu a touché dans leur faiblesse, que ce soit Pierre, Paul. On pense toujours que Paul était un homme fort. Oui, il a une certaine force, mais en même temps, il dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Dieu nous touche, c'est nous toucher dans notre faiblesse. Il y a des circonstances de vie qui nous marquent. L'apôtre Paul a prié pendant des mois, si ce n'est des années, en disant, mais cette faiblesse, j'aimerais qu'elle disparaisse. Mais, voilà, comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Puis Dieu lui dit simplement, ma grâce te suffit. Pendant des années, il y a des choses dont j'ai cherché à me libérer. Trois fois, j'ai été voir un des profs principaux au collège, en disant, mais j'ai toujours ce problème. Puis lui me répondait toujours, le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Et je dis, bah ouais, mais ça ne me suffit pas. Et puis, il y a un jour où la grâce a suffi, où la compréhension, où l'ouverture se fait, puis on se dit, voilà. Seigneur, il y a ce point faible dans ma vie, mais tu le couvres. Tu le couvres. Voilà, ça évite de croire qu'on est capable de tout gérer, de tout faire. Puis quand Dieu veut toucher nos vies, il réappuie à l'emboîture de l'ange, il fait hop là. T'as tant que ça de capacité, tant que ça de force. Je vous laisse avec ce parcours de Jacob, avec ses combats. N'ayons pas peur des combats seuls entre quatre yeux, avec Dieu en Jésus-Christ. Mais sachons choisir la bénédiction de Dieu, le droit d'Hermès. C'est mieux que le monde, c'est mieux que tout ce que la vie en dehors de Dieu peut nous offrir. Ça vaut le choix. Dieu nous respecte, c'est un combat gagnant-gagnant. Même si Dieu sait où nous, on a des faiblesses. Mais il nous accompagne dans voilà, tout ce processus, tout ce procédé. Donc je vous rappelle, où tu vas, quand tu vas, comme tu veux. C'est pas à dire à la légère. Il y a du poids dans ces paroles-là. Il y a des décisions. Mais je trouve que le choix vaut le coup. Le choix vaut le coup. C'est démontré dans la vie de Jacob. Dans ma vie, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup aidé. Seigneur, je veux continuer de te choisir. Quelles que soient les circonstances de la vie. Ma vie est remplie de roses. Ça sent bon. Il y a quelques épines. Mais ne décrochons pas. Cherchons à avancer avec Dieu. Je pense que parfois ce combat est à renouveler. Et le Seigneur est toujours prêt à nous accompagner dans nos combats. Si Dieu combat pour nous, qui sera contre nous? Il combat, il est à nos côtés. On veut prier ensemble. Père Céleste, merci pour tous ces exemples, tous ces hommes de Dieu. Merci parce que leur vécu nous parle encore aujourd'hui. Seigneur, merci de nous proposer ce choix, ce droit d'aîné, cette bénédiction au travers de Jésus, cet héritage au travers de Jésus. Seigneur, apprends-nous à dire, déposer à tes pieds où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, que la souveraineté sur notre propre vie soit transférée sur toi. Merci de nous accepter comme nous sommes, comme je suis. Merci de nous accompagner aussi avec nos faiblesses. Merci de toucher nos vies. Merci par-dessus tout de ta bénédiction dans tous les départements, dans toutes les cases, tous les chemins de notre vie. Amen. Laurent va nous accueillir.